Sud Radio, toute vérité est bonne à dire, 21h-22h30, Didier Maistreau.
21h25, nous sommes encore ensemble pour un peu plus d'une heure, 0826-300-300, nous sommes bien sur Sud Radio, cet espace est le vôtre, vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous tient à cœur, hein, ce qui vous révolte, ce qui vous passionne, ce qui vous rend triste, ce qui vous rend joyeux. Et nous avons Pierre qui nous appelle de Bédarieux et justement qui veut réagir aux propos de Corinne. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir. Alors moi je suis colère.
Vous êtes colère, vous êtes coléreux ou colérique.
Une seule colère. Donc à propos des 110, vous voyez, Corinne qu'on a eue qui est de gauche, alors moi je suis souverainiste, mais je la suis dans son raisonnement. Parce que pourquoi on a créé des autoroutes ? Les autoroutes, sur les autoroutes, ils connaissent pas le monde des autoroutes, ces gens-là. Vous avez des camions qui roulent à 110, vous avez les cylindrées moyennes, hein, les Clio, les Peugeot 205, les voitures qui font 90-100 chevaux, comme j'ai moi, qui roulent à 120, puis vous avez les gros cylindrées qui roulent à 130. Vous avez trois vitesses différentes. Mais ça, n'importe quel ingénieur de la DDE vont vous dire pourquoi on a ça. C'est pour la fluidité du trafic. Hein. Vous avez ces trois vitesses-là. Moi, je roule à 110-120 avec ma voiture. J'ai des gros cylindrées qui me doublent. Ils vont passer avant moi au péage. Et moi, je suis content qu'il y ait ces trois-là. Vous avez un tiers de camion, un tiers de petites cylindrées et un tiers de gros cylindrées. Et tout ça, c'est fluide. Vous voyez, c'est comme ça. Le monde est comme ça.
Bon, signalons aussi très peu d'accidents sur les autoroutes,
oui. Hein,
très peu d'accidents, des voitures
oui.
Beaucoup plus sûres, parce que rouler à 130 km/h en 2020, c'est pas comme rouler à 130 km/h en 1960. La pollution aussi, les filtres à particules pour les diesels et la pollution des moteurs à essence qui polluent infiniment moins. Alors je suis pas en train de dire c'est formidable, etc. Mais quand même, après, moi je préfère prendre les nationales, les départementales, chacun son choix. Mais l'autoroute, c'est fait pour aller d'un point A à un point B plus vite. Alors moi, je sais pas. Peut-être que il faudra faire des autoroutes pour les vélos. Et puis on fera Paris-Marseille à vélo. On dira c'est bon pour la planète. À un moment, quelque part, c'est vrai que ça n'a plus beaucoup de sens tout cela.
Mais voilà, on a trois routes, on a trois voies sur notre route, une à 110, une à 120, une à 130. Là, tout ça, c'est fluide. Mais si vous mettez tout le monde à 110, mais vous rendez compte, tout le monde va être, les poids lourds dans les montées, tout le monde va être à 110. Vous imaginez le truc, c'est complètement ridicule. Et aucun ingénieur de la DDE ne va vous dire ça, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler à votre antenne. C'est ça qui est incroyable, parce qu'on est dans le politique, et c'est le politique qui décide de tout. Et ces gens, vous voyez, ces gens qui sont dans ces commissions, en fait, ce sont les gens des villes qui n'ont pas de voiture, qui se déplacent en avion. L'avion, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Alors, voyez, moi, je suis dans la campagne, les gilets jaunes, là, voilà. Et on embête tous ces gens-là parce qu'ils vont consommer un ou deux litres de plus dans les voitures, alors que les avions c'est mille fois pire, vous voyez. Et ces gens-là ils se déplacent qu'en avion. Moi j'aimerais qu'on demande à ces gens qui sont dans les commissions combien de kilomètres ils ont fait en voiture cette année et combien de fois ils ont pris l'avion. Vous voyez, hein, c'est comme les médecins, on leur demande est-ce que vous avez des intérêts dans telle officine, dans tel laboratoire. Les gens qui sont dans ces commissions, il faut leur demander est-ce qu'ils roulent en voiture ou est-ce qu'ils se déplacent en avion.
Oui, et puis il y a aussi quelque chose qu'on peut constater dans les métropoles, par exemple ici à Paris. Bon, Anne Hidalgo, hein, maintenant, la folie des vélos, etc. Bon, d'abord, il faut avoir... il faut être d'un certain profil, hein, faire du vélo la journée, tant mieux si les gens arrivent à faire du vélo. Moi, j'ai pas le temps. Je trouve que les gens ont beaucoup de temps, beaucoup de loisirs et beaucoup d'argent pour vivre à Paris et faire du vélo, mais c'est un autre problème. Il y a quelque chose que j'ai pas compris au film, sans doute. Mais quand vous voyez les engorgements que ça crée, vous avez aujourd'hui les quais qui ne peuvent plus être empruntés pour une large partie. Vous avez maintenant la rue de Rivoli qui ne peut plus, qui est complètement rendue au vélo. Tous les tunnels qui traversent Paris d'est en ouest, progressivement s'emboucher, vous pouvez plus les emprunter, c'est fait pour les rollers, etc. Bon, ça crée des engorgements énormes en plus du simple fait de cette décision, des engorgements énormes tout autour, et des voitures qui stationnent, qui démarrent, qui s'arrêtent, qui redémarrent, qui sont stationnaires, donc presque pratiquement immobiles, et ça crée énormément de pollution. Et plutôt que de favoriser, comme vous parliez de fluidité, là, une politique pour les deux roues, alors peut-être qu'un deux roues, évidemment, en valeur absolue, quand on fait le rapport poids-puissance, et je ne vais pas rentrer dans les détails, ça consomme plus, mais ça reste moins longtemps. Tout le monde comprend que si en deux roues, vous traversez Paris en 11 minutes, ça polluera toujours moins qu'une voiture qui va être à l'arrêt, qui va traverser Paris en une heure et demie, parce qu'il y aura plus de route. Il faut bien comprendre ça. Et souvent, on prend sa voiture parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a plus, il y a 900 000 à 1 million de personnes qui, tous les jours, viennent travailler à Paris. Tout le monde ne peut pas prendre des transports en commun. Et donc, on ne peut pas vivre dans une espèce d'îlot protégé, sous bulle, une espèce de musée, et faire comme si autour de Paris, il n'y avait pas des banlieues, de l'activité, des gens qui étaient obligés de se déplacer. Et ça, c'est très compliqué, quoi. Voilà.
Oui, moi je suis pas à Paris, je suis dans la campagne en prenant tout l'autoroute. Enfin, moi, à mon âge, je sais que j'ai fait beaucoup de routes, mais des fois je prends l'autoroute et je vois bien comment sur l'autoroute, parce que j'étais chauffeur routier il y a très longtemps, et comment fonctionne une autoroute et comment a été étudiée une autoroute par les ingénieurs pour le fonctionnement de ce principe de déplacement pour que tout le monde y trouve son compte. Il y a un fonctionnement type. Alors maintenant, si on commence à dire le fonctionnement de la société, on s'en balance, le fonctionnement qui a été organisé, maintenant on met tout à minima. On met tout à 80 sur les routes, on met tout à 80, et ça ne peut plus fonctionner. Il n'y a plus de fluidité. À ce moment-là, on ne fabrique plus de voitures au-dessus de 100 chevaux. Vous voyez ce que je veux dire? On arrête tout ça et on arrête le mécanisme et on met tout le monde sur les vélos, quoi, sur les tandems. Hein. Et en plus, les voitures, il y a eu des progrès énormes en matière de pollution, en matière de confort à l'intérieur des voitures. Effectivement, sur les autoroutes, il y a très peu d'accidents. Parce que il y a des aires de repos, il y a plein de choses qui fait que on est beaucoup plus cool sur une autoroute quand on veut traverser la France. Évidemment, c'est beaucoup plus facile.
Et la vitesse, souvent, n'est que quand on regarde toutes les études, n'est qu'un facteur aggravant. Hein. En général, c'est la fatigue. L'alcool, mais beaucoup la fatigue, les gens s'endorment, etc., au volant. Évidemment, si vous êtes à 300 à l'heure, vous allez faire plus de dégâts, mais la vitesse n'est pas le premier facteur, loin s'en faut, en termes d'accident. Voilà, il faut quand même rappeler tout cela. Merci Pierre, merci
voilà,
beaucoup.
Bonjour, merci. Je vous remercie Didier pour tout ce que... Je suis très heureux de vous avoir en ligne, parce que vous êtes un journaliste extraordinaire, dans le bon sens du terme. Oh,
c'est gentil.
Et je vous remercie pour tout ce que vous faites.
Merci beaucoup. Nous avons 0826 300 300 Cécile qui nous appelle de Pau et qui veut nous parler, tiens, de Madame Avia, Laetitia Avia, et des révélations aussi de Mediapart à son sujet. Bonsoir Cécile.
Oui, bonsoir Didier. Et je salue Pierre, un camarade souverainiste. C'est bien parce que grâce à vous Didier, à Sud Radio, puis à plein d'autres, il va se passer des choses d'ici 2 ans. On va tous être, tous ceux qui le souhaitent évidemment, et qui voudraient sauver notre pays, on peut peut-être penser au souverainisme, ça c'est pas mal.
Bon, c'est devenu un mot qui n'est plus au placard, qui n'est plus un gros mot, et même Emmanuel Macron devient souverainiste, alors c'est vous dire.
Oui, mais il adore utiliser des mots qui sont à la mode parce que ça, si ça peut l'aider un peu à surfer sur une vague de plus. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en effet, comme dit Michel Onfray, ça sert à, ou même Goldman, en fait, ça sert plus à rien, quoi. C'est-à-dire, leurs insultes, ça marche plus.
Oh, les gens maintenant, quand vous avez, il y a quelques stimuli pavloviens comme ça, hein, quelques réflexes complotistes, conspirationnistes, bon, on les connaît tous. Bon, les gens. Ils mettent leurs yeux sur off et puis ils vont au cœur du sujet.
Voilà. C'est ça, il faut enjamber toutes ces choses-là. Oui, eh bien, oui. Alors, Madame Avia, alors c'est bien parce qu'elle revient grâce à Mediapart sur le devant de la scène. Alors, évidemment, elle s'est pris un vent avec sa loi il y a la semaine dernière, hein, puisqu'elle a été retoquée par annulée par le Conseil constitutionnel. Mais là, c'est notre bon Mediapart qui envoie du lourd là. Alors, Didier, je voudrais parler.
Alors, rappelons quand même les faits. Oui. Elle a été accusée. Accusée. Elle a été mise en accusation, oui, hein, par un certain nombre de personnes, que Mediapart a révélé cela, et notamment des candidats adverses, puisqu'elle était candidate dans le 12e, elle est candidate dans le 12e arrondissement de Paris.
Pour sa campagne.
Pour sa campagne. Mmh. Et il a été révélé que des assistants parlementaires faisaient campagne pour elle, avec des moyens donc, d'État, une campagne municipale. Et comme je l'ai dit hier sur une télé...
C'est ça, c'est ce que j'avais regardé.
Voilà, bon, j'ai dit 80%, 90%, oui. Parce que je suis gentil, mais en réalité, ouais, c'est 100% des assistants parlementaires de députés qui, évidemment, quand il y a une campagne, font une campagne. Bon, de toute façon, il n'y a pas de définition de poste. Donc, le député peut vous faire ce que vous voulez. Il ne peut dès lors ne pas y avoir non plus d'emploi fictif, puisque le poste n'est pas défini, il n'y a pas de grille indiciaire, il n'y a pas de mission. Donc, c'est un contrat de droit privé, hein, où le député a tous les droits et de manière unilatérale, il peut rompre comme ça sans donner de raison, avec de l'argent public. Sans grille indiciaire, sans détail, sans mission, sans définition de poste.
Voilà. Alors bon, la boucle est bouclée, parce que ça nous revient avec l'affaire Fillon. Mais alors justement, Didier, parce que vous avez été, vous, je crois, assistant parlementaire, hein, enfin, il me semble que...
Absolument.
Parce qu'en fait, on a tendance à oublier très vite, mais souvenez-vous, justement, il n'y a pas que lui, évidemment, il y a Bayrou, il y a Le Pen, il y en a toute une série qui ont eu ce genre de soucis. Mais il me semblait que, justement, ils avaient tout ça a pris des proportions dans les médias, en se disant, oui, on va s'occuper du statut, il faut absolument régler cette histoire de statut. On a fait le coup aussi pour la première dame, hein, d'ailleurs, et je vois que dans un cas comme dans l'autre, rien n'a bougé. Mais il me semble que rien n'a bougé, n'est-ce pas?
Non, rien du tout. Passé, hein. Absolument.
Ouais. Donc,
les assistants parlementaires au Sénat, il n'y a pas de problème.
Oui, parce qu'ils ont
une définition de poste, etc. À l'Assemblée nationale, il n'y a rien. Alors, donc, on ne peut pas ensuite accuser les gens de dire « c'est un emploi fictif » ou « vous m'avez employé pour faire ça ». Tout le monde redécouvre chaque fois le fil à couper le beurre.
C'est ça. Alors, parce que moi, j'ai même une amie qui a été assistante parlementaire. Elle a été payée 3 francs 6 sous. On lui a promis ses salaires qu'elle n'a jamais eu et elle n'a jamais pu faire de procès parce que ce n'est pas passé au niveau du prud'homme. Tout ça était extrêmement flou dans la mesure où, justement, cet emploi n'est pas défini. Alors, mais pourquoi ça bloque? Est-ce qu'ils ont quel intérêt ont-ils? Enfin, je me souviens, il y avait eu des manifs, des assistants qui ont vraiment réclamé un statut, et puis ça n'a pas bougé. Est-ce que c'est intéressant pour un député d'avoir comme ça une sorte d'esclave? Vous parliez d'esclave dans la vidéo d'RT. Est-ce que ils ont un intérêt, en effet, à ne pas davantage préciser ce statut? Pourquoi ne le font-ils pas, après tout?
Je pense que sous la pression populaire... Et sous les révélations qui tombent les unes après les autres, et le fait que certaines affaires voient le jour, un jour peut-être ce sera fait, il faudrait leur poser la question. Hein, mais c'est vrai que souvent, quand la loi a été changée, ça a toujours été très hypocrite, hein, parce que souvent les députés aujourd'hui vous disent « mais on touche 5 000 euros et c'est tout ». Alors oui, on peut compter comme ça, évidemment. Wow. Le traitement lui-même, c'est 5 000 euros, mais si on compte, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans la technique, ça serait trop rébarbatif, mais bon, on est à plus du double. Après, c'est pas tellement un problème, comme je le disais tout à l'heure, de somme, les gens, après tout, on décide d'une somme, voilà, bon... Très bien, mais au moins que ce soit clair, qu'on comprenne exactement. C'est pareil pour la comptabilité publique. Chaque fois, on change les normes, donc de telle sorte que vous ne pouvez plus en fait faire des additions, des soustractions, des comparaisons. Et là, c'est un peu chaque fois la même chose, un rideau de fumée, un écran de fumée. Et donc, du coup, on vous produit un papier, on dit, mais regardez, c'est comme ce qui s'est passé dans l'affaire Colère, là. On dit, mais y a un premier rapport, oulala, c'est horrible. Et puis, il y a un deuxième rapport. Alors là, il est lavé de tous ses péchés. Entre-temps, que s'est-il passé? Une note une note du président de la République. Bon, alors tout cela n'aide pas à lever la suspicion sur le fonctionnement de la vie publique.
Non, bien sûr. Et effectivement, cette espèce. D'ailleurs, Laurent Oberton le dit très bien, vraiment, il est formidable, quand il dit qu'en effet, il y a un complot nettement, il y a un intérêt. Enfin, même des ennemis, quand ils ont un intérêt commun, ils deviennent amis. C'est-à-dire que là, il y a un véritablement. Il y a entre les médias, la justice si c'est nécessaire et le monde politique, des intérêts qui peuvent changer d'ailleurs au fur et aux mesures de l'année, de la vie, de leur vie professionnelle. Voilà, ils se cooptent, ils s'aident, ils se téléphonent, ils ne donnent pas une pièce du dossier. Là, on vient de voir qu'il y a une pièce au dossier qui n'a pas été versée pour Fillon. Donc tout ça est terrible. Mais voyez, je me dis Didier que je me souviens, moi, quand j'étais petite, on parlait de l'Afrique en disant « Oh là là, ce sont des républiques bananières », c'est-à-dire que corruption à tous les étages, etc. Mais au fond, on est largement au stade des bananes, quoi. Mmh. C'est-à-dire que nous, on est une république bananière, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une corruption, mais absolument
Bah, c'est vrai que dès qu'on gratte un petit peu, et souvent on nous fait le coup du complotisme. Alors on nous envoie ça, ça aussi c'est un rideau, un écran de fumée. Oui. On vous dit, ah, t'es complotiste, il y a un complot. Mais non, c'est pour ça qu'il faut bien expliquer. Il n'y a pas de complot. Et comme vous l'avez justement dit, il y a juste un moment, une réunion d'intérêts convergents. Des réunions qui se font, qui se défont, mais après, vous avez des gens même qui, soi-disant, se combattent et qui vont défendre le système en tant que système, parce que c'est leur assurance-vie, en quelque sorte. Et quand vous avez quelqu'un qui témoigne de l'intérieur, qui veut faire changer les autres, il faut tout de suite le faire passer pour le vilain petit canard. Et vous avez ça sur la mesure des audiences, sur les chaînes de télé, dans les affaires diverses et variées de médicaments, d'industrie. Et le problème, évidemment, à la source, c'est toujours le même. C'est celui des conflits d'intérêts. Et vous pouvez, en France, c'est pratiquement le seul pays où vous pouvez à la fois être juge et parti, être dans le public et dans le privé, et successivement passer d'un secteur à l'autre, tout en ayant d'ailleurs de l'avancement, parce que quand vous vous mettez en disponibilité de votre corps, vous avez votre avancement et vous retrouvez tout à fait votre place, si vous le souhaitez, dans telle ou telle généreuse institution de la République française. Non, voilà, alors ça marche par temps calme, ça marche quand il y a de l'argent à profusion. Il semblerait que ça marche un peu moins et que les citoyens soient de moins en moins d'accord, parce que tout le monde va devoir se serrer la ceinture très fort, vu les temps qui arrivent.
Ah oui, c'est certain. Mais d'ailleurs, j'avais suivi votre polémique que j'avais trouvée très intéressante. Vous aviez révélé aussi la façon dont les réseaux, dont les fréquences étaient attribuées, les chaînes de télé, etc. C'est pareil, c'est un vrai panier de crabes. Enfin, c'est quelque chose de dingue.
Et oui, et vous voyez, ce qui est terrible, c'est que je suis encore en train de me battre sur ces histoires.
Non, mais c'est passionnant.
Voilà, c'est passionnant, mais quand vous apportez toutes les preuves irréfragables, tous les documents, les dates, comme le fait Mediapart, moi j'ai fait 3-4 bouquins sur le sujet, etc. Vous amenez tout, et bien il y a toujours, c'est un peu le mythe de Sisyphe, vous poussez le rocher, vous dites « Ah, cette fois je suis arrivé, patatras, au dernier moment,
vous redescendez,
et c'est toujours pour des... On vous donne pas de raison, c'est Brésil, le film, c'est ça. Tuttle ou Buttle, on sait pas bien, une lettre, vous avez pas le bon imprimé, etc. Et ça finit dans une voie de garage, souvent.
Oui, c'est terrible. Alors, j'ai juste une petite chose, parce que c'est intéressant de ne pas toujours être d'accord. Je voulais juste modérer votre enthousiasme sur Mediapart. Vous disiez que c'était un média de salubrité publique. Alors, oui, lorsqu'ils révèlent des choses, effectivement, comme d'ailleurs le Canard enchaîné, et moi j'aime bien, je suis assez destructive et j'aime bien qu'on mette un petit coup dans la fourmilière, ça me plaît bien. Et je veux être honnête aussi, c'est-à-dire que je veux accepter aussi que quand Mediapart assassine un mec de droite, que je suis de droite et souverainiste, comme vous l'avez compris, je veux accepter aussi cette façon de faire. Je trouve que c'est important qu'il le fasse, même si c'est quelqu'un que j'apprécie de mon camp. Et de la même façon que lorsqu'il tape sur la gauche. Donc je veux être honnête là-dessus. Je dis pas que je veux pas remplacer un totalitarisme par par un autre ou un sectarisme par un autre. Mais tout de même, j'avoue que Louis Plenel, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Il s'assoit quand même très facilement sur la présomption d'innocence, sur le secret de l'instruction. Il a des méthodes que je trouve très contestables. Mais par ailleurs, je suis d'accord, moi je suis à fond pour la liberté d'expression, et même si les gens me dérangent, même si il y a des publications qui me dérangent et que sur lesquelles je suis contre, et que je peux même contre lesquelles je peux m'opposer fortement, parce que je mène toute une campagne par ailleurs intellectuelle et culturelle de résistance. J'ai Elisabeth Lévy qui est ma copine. Je dois dire que non, ils sont importants et il faut qu'ils soient là. Ils sont importants. Même si ça me plaît pas toujours, c'est important. Leurs méthodes sont plus contestables, Didier. Je sais pas ce
que... Oui, alors après, c'est vrai que... Alors, je veux juste dire, moi, je vais pas rentrer, évidemment, dans le débat.
Mais, non, je veux pas.
Mais voilà. Mais juste pour dire quand même que la présomption d'innocence... C'est un concept qu'on agite en France, comme ça, présomption d'innocence, présomption... Ça n'existe pas. Alors, ça existe en droit, hein, on va dire que c'est un principe. Mais quand vous avez... dans un grand journal du soir, hein, mettons, toute l'audition par le menu, dans tous les détails, et qu'on vous parle après de secret de l'instruction, surtout, c'est ça que je voulais dire, plutôt que présomption d'innocence, secret de l'instruction, vous dites, bon, ok, alors, si c'est la loi, mais que toute exception est valable, c'est comme un petit peu, si je fais un parallèle, l'émotion... qui est plus importante que le droit, qui supplante le droit. Alors, si l'exception supplante la règle, c'est le début de l'arbitraire. Et là, aujourd'hui, on peut très bien, effectivement, avancer sur des affaires, de l'investigation, mais le secret de l'instruction, tout ça, ça n'existe pas. Et je veux dire que parfois, et c'est là où ça devient compliqué, c'est parfois heureux. Hein, parce que si... si parfois un juge fait, pourquoi il fait ça, un juge? Il faut bien se mettre dans la tête d'un juge. Parfois, il voit que son enquête, elle est bloquée, qu'il va être nommé ou qu'il a été nommé ailleurs ou qu'il y a toute une cabale contre lui parce qu'il est justement indépendant, qu'il veut faire avancer, éclater la vérité. Et donc, à un moment, il fait quelque chose. Il porte ça devant le... Il prend le public et les Français, les citoyens à témoin. Et donc, l'affaire peut se dérouler et ça devient son paravent, ça devient sa sécurité pour ne pas que... Et c'est malheureux, hein. Je dis pas que c'est fantastique, mais c'est souvent une parade qu'on a trouvée, que les juges ont trouvée avec l'aide des médias pour ne pas qu'une affaire soit enterrée, soit classée.
C'est vrai, mais vous savez, les avocats font la même chose. Les avocats souvent font leur plaidoirie devant les médias, chez Pascal Pro, sur les chaînes d'info continue. Je trouve que, en effet, ils utilisent tous maintenant ce procédé. Certains ont même été épinglés parce que véritablement, ils étaient en pleine plaidoirie, alors que le procès était en cours et qu'ils n'avaient pas encore plaidé devant la cour. Donc ça, c'est quand même gênant.
Mais aujourd'hui. Aujourd'hui, le seul compte, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste factuel, le tribunal médiatique. Si vous n'avez pas accès au tribunal médiatique, vous pouvez avoir raison en droit, vous pouvez avoir raison dans les faits. Comme disait un ancien ministre socialiste, justement, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. C'est un peu du même acabit que ce que disait notre ministre de l'Intérieur, l'émotion est supérieure au droit. Et donc, tant qu'évidemment, on a une justice, enfin, quand on nous dit, on nous fait la fable de la justice indépendante, enfin, en tout cas, des parquets indépendants, quand vous avez un garde des Sceaux qui nomme les gens, etc., des syndicats qui aussi influent, une doctrine de la jurisprudence, alors je parle même pas des tribunaux de commerce, alors là, il faudrait en écrire des tomes et des tomes, c'est plus personne ne peut croire en cela, et pourtant la justice est rendue au nom du peuple français, et on parle pas parle de la justice quand même. Voilà.
Bah bien sûr, mais d'un autre côté, vous voyez qu'ils ont beaucoup ont compris la ficelle, enfin ont compris la formule, et ne serait-ce que les là l'affaire Traoré, la sœur Traoré, elle a tout compris, c'est-à-dire qu'elle fait son petit business, sa petite propagande devant les médias, et évidemment ça influe terriblement sur le jugement et sur la façon. C'est une pression, c'est même elle y va très fort puisque elle en est même aux menaces. Donc c'est en effet les médias. C'est ça, sont devenus une sorte de propagandistes, de comment dit-on, lorsque on amplifie l'amplificateur de toutes les affaires confondues, ça peut être en effet. Ça va ça prend sur tous les domaines et c'est effrayant. Mais alors il y a une dernière petite chose qui m'a impressionnée, mais que je voudrais dire pour qu'éventuellement en informer nos auditeurs. J'ai vu une très intéressante interview du Squale, qu'on appelait le Squale, c'est-à-dire Squarcini, oui. Un Bernard Squarcini qui est l'ancien...
Le Corse. L'ancien patron...
C'est ça, de la DGSI.
Absolument.
Et alors, il racontait cette anecdote lorsqu'il a pris ses fonctions, donc son prédécesseur le briefait un petit peu, et il lui a donné une feuille sur laquelle était inscrite une trentaine de journalistes et de médias, presse écrite, télé, radio, et il dit, bon, ça, tu vois, ceux-là, tu les bichonnes, parce que, tu vois, on a une très très bonne collaboration entre eux et nous, c'est-à-dire que nous, toi, tu vas leur filer des dossiers clés en main, évidemment piloté par l'État, hein. Donc tu te mets au chaud des petits dossiers, tu leur donnes clé en main, et ils les sortent quand tu veux. Et inversement, quand ils te demandent des infos, ben, tu leur donnes. Donc il y a aussi une très grosse collaboration entre les services secrets, renseignements généraux, qui n'existent plus, mais enfin bon, c'est la même chose, et les médias, ce qui fait que c'est comme ça que sortent au bon timing, hein, c'est-à-dire, je sais pas, au hasard, parlons de Fillon, hein, en pleine campagne électorale, ou pour Le Pen, pareil, paf, ça tombe juste à ce moment-là. Ça peut être pareil pour Mélenchon, hein, moi je prends tout le monde. Voilà, et ça sort au bon moment, parce que, et franchement, leurs cellules d'investigation, la plupart du temps, pas toujours. Il y en a qui travaillent beaucoup et qui ont de vrais investigateurs, et qui mettent de l'argent, parce que ça coûte très cher. Hein. Ce sont des enquêtes qui coûtent très cher, ils peuvent pas toujours, ils n'ont pas toujours le temps et l'argent. Et les journalistes, c'est pour ça et bon pour ça. Mais souvent, le dossier, il est totalement écrit, c'est-à-dire que, paf, c'est donné, cadeau, et après on renvoie l'ascenseur. Donc je crois qu'il faut aussi être conscient de tout ça. Bon, il faut prendre du recul, il faut être raisonnable, il faut savoir trier le bon, enfin le vrai du faux. Il faut s'informer sur tout, et je crois que là-dessus vous êtes partisan de ce type de recherche intellectuelle.
Oui, parce qu'il y a, pour
faire... faut essayer de comprendre et garder son bon sens. Voilà.
Pour schématiser un peu, on est obligé de schématiser, mais il y a, disons, deux grands types de journalisme pour ce qui concerne les affaires. Le journalisme dit d'investigation, qui est en fait à la remorque de la police et de la justice, hein. Il y a une information judiciaire qui s'ouvre, une affaire, et là tout le monde, comme en plus les gens se singent les uns les autres, l'AFP fait une dépêche, alors là, tout le monde d'un coup parle d'une affaire. Et puis vous avez des gens plus rigoureux, hein, qui pratiquent eux un journalisme d'initiative, appelons ça comme ça, quelques grands enquêteurs. Voilà, Marc Hindevelde par exemple, pour ne citer que lui, Antoine Payon, de personnes que je connais et que j'apprécie. Je vois leur façon de travailler, ils font des bouquins. Overton, c'est sur plusieurs années, alors parfois ils sont décriés, mais bon, oui. Mais quand même, quand ils produisent leur enquête, il y avait Pierre Péan avant, hein, voilà. Des gens comme ça qui sont capables d'aller au bout d'une histoire, parce qu'ils ont une intuition au départ, ils font des corrélations, et puis après ils cherchent, en dehors de toute pression judiciaire ou médiatique, mais voilà, ce sont deux façons de voir les choses et d'envisager ce beau métier qu'est le journalisme. Voilà.
Ce beau métier, je suis d'accord. Moi, j'ai travaillé longtemps à Paris dans certaines publications, Le Figaro notamment, Valeurs Actuelles, etc. Et vraiment, c'est un beau métier. C'est un beau métier qui est vraiment abîmé en ce moment, enfin depuis quelques temps. Mais voilà, et je voudrais aussi, voilà, il faut, et je, vraiment, Didier, enfin, vraiment, je le dis sincèrement, il faut absolument, vous êtes formidable à Sub Radio, parce que d'abord, moi j'aime qu'il y ait Laurent Mauduit en même temps que son prénom, François Degois.
Voilà, oui, il y a du débat, Elisabeth Lévy.
Voilà. C'est formidable, il y a du débat, vous nous faites comprendre, vous nous apprenez des trucs qu'on trouve nuls par ailleurs. On peut parler, voyez, là, je peux parler avec vous simplement. Chapeau, vraiment, c'est bien continué. Et moi, je suis prête à, voilà, il faut qu'on puisse vous avoir encore et c'est formidable. Vraiment, vous faites un super boulot.
Merci beaucoup, Cécile.
Et à tous les auditeurs aussi, vraiment merci et à bientôt.
À bientôt, bonne soirée.
Merci à vous.
Merci. Aussi. Allez, tiens, on va s'écouter un petit Eiffel. T'as tout, tu profites de rien.
Sud Radio, toute vérité est bonne à dire, 21h-22h30, Didier Maistre.
Nous sommes bien sur Sud Radio, encore une demi-heure ensemble, c'est vrai qu'on est bien ensemble, alors est-ce que vous avez tout, est-ce que vous profitez de rien, est-ce que vous n'avez rien, que vous ne profitez de tout peut-être, allez savoir, hein. Parfois le monde est mal fait, et peut-être qu'une société justement est là pour essayer de compenser ces déséquilibres, et en tout cas, ne pas faire de l'égalitarisme, mais au moins essayer de promouvoir l'égalité des chances au départ. Et puis après, advienne que pourra, mais qu'il y ait des mécanismes comme ça d'entraide et de solidarité. C'est la différence, me semble-t-il, avec l'assistanat. Il faut essayer de faire quelque chose de sa vie, quelque chose pour les autres, et en général les autres nous le rendent au centuple. Enfin, vous nous direz ce que vous en pensez. 0 826 300 300, et nous avons François qui nous appelle de Rodez pour parler de l'intervention, j'imagine, cet après-midi du professeur Raoult.
Oui, bonsoir Didier.
Bonsoir, bonsoir François.
Oui, alors je n'ai pas vu, je suis régulièrement ce que dit le docteur Raoult. Là, je n'ai pas encore vu l'intervention, mais je vous en ai entendu parler au début de l'émission. Et en fait, je voudrais apporter un cas, mon expérience personnelle, quoi, qui a un rapport avec ça. C'est que, alors j'ai une formation scientifique au départ, en physique. J'étais informaticien. Et donc, je suis assez curieux de ce qui m'arrive ou ce que je peux observer. Et il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires. Je crachais beaucoup, j'avais parfois des difficultés à respirer. Donc, ça a été diagnostiqué plus tard comme étant BPCO. Enfin, BPCO, c'est bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est un syndrome, c'est pas une maladie, parce qu'on sait pas ce que c'est. Par contre, c'est traité d'une certaine manière. Et donc, au début, j'ai pris la ventoline, ce qu'on donne pour les asthmatiques, et le problème a empiré. Et ensuite, les médecins m'ont donné ce qu'on donne à tous les gens qui ont ce genre de problème, c'est-à-dire des médicaments qui s'appellent Seretide ou Duoresp, qui sont une association de bronchodilatateurs et d'anti-inflammatoires, et avec un dosage qui est toujours le même. Donc j'ai pris ça pendant un moment, et effectivement au début ça me soulageait par rapport à mon état antérieur, mais au bout d'un moment je voyais qu'il y avait un petit problème là-dedans, enfin, ça ne me correspondait pas exactement, c'est-à-dire que c'est comme s'il fallait que j'en prenne plus pour diminuer l'inflammation, parce que je sentais que j'avais trop d'inflammation, mais comme en même temps je prenais le bronchodilatateur, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi, parce que ça écartelait mes bronches et c'était douloureux.
C'était douloureux, oui.
Voilà. Donc j'en parlais à mon pneumologue, et c'est comme si je lui avais rien dit, c'est-à-dire que il me répond pas. J'ai toujours continué à me poser des questions, tout ça, et finalement j'ai l'information par une pharmacienne qui me dit que ça existe, quoi, qu'on peut avoir l'anti-inflammatoire, et ça s'appelle Bécotide, et pouvoir doser, quoi, voilà. Mais je ne réussis pas à me faire prescrire ça par le médecin. Et après j'ai déménagé et je suis tombé sur un autre pneumologue qui me donnait les mêmes genres de choses, mais qui m'a fait faire un test, sa test de non-régression. De régression, plutôt. Non, régression, c'est en informatique. Test de régression. Et j'ai pris de la cortisone, c'est-à-dire l'anti-inflammatoire, par voie orale, à assez forte dose. Et je devais prendre ça pendant 14 jours. Mais en 48 heures, je n'avais plus aucun symptôme. Et mes symptômes, c'était, difficulté respiratoire, crachat, et j'avais perdu l'odorat aussi depuis des années, quoi.
Et vous en avez déduit quoi, alors?
Et en 48 heures, j'avais retrouvé l'odorat, j'avais plus aucun symptôme. Et bien, ça a confirmé mon idée que j'avais pas assez d'anti-inflammatoires et trop de bronchodilatateurs. Et donc j'ai essayé, comme c'était le week-end, le lundi, j'essayais d'appeler la pneumologue et j'arrive pas à la voir en direct. Donc j'ai que sa secrétaire et donc je veux quand même lui expliquer ce qui m'arrivait, parce que en 48 heures j'avais plus aucun symptôme, alors que j'étais pendant des années, c'était pénible, quoi. Voilà. Mon précédent pneumologue m'avait même fait faire un test d'apnée respiratoire pendant une nuit à l'hôpital. Il m'avait dit vous avez une apnée grave du sommeil, et donc j'avais pris un appareil pour pouvoir respirer la nuit.
Absolument.
Ouais, que je pouvais pas supporter parce que j'avais trop d'air, et après ça me faisait des douleurs abdominales incroyables. Donc j'ai arrêté. Et donc là, avec ce... Donc, un mois plus tard, je vois mon médecin... Je finis, mais... Parce que j'ai diminué les doses, parce que ça mettait... La cortisone, ça mettait dans un état d'excitation très grand. Donc j'ai diminué les doses pour voir qu'est-ce qui atténuait mes symptômes, quoi. Quel était le bon dosage. Et puis je vais voir, je tourne voir mon médecin traitant pour qu'il me lui demander de cela, quoi, pour que... Et alors j'avais écrit j'avais écrit par mail au pneumologue pour avoir.
Alors qu'est-ce qu'il vous dit?
Vous lui dire, justement. Je lui ai écrit dans en détail tout ce qui m'est arrivé pour. Je pouvais pas l'avoir en direct. Jamais de réponse. Par contre, quand je vais voir mon médecin traitant, je m'aperçois que mon pneumologue a contacté mon médecin traitant pour lui dire que j'avais changé le traitement, tout ça. Et mon médecin traitant me reçoit, mais alors moi j'étais content de lui dire voilà, ça va beaucoup mieux et ça. Et elle me faisait la gueule, quoi. Parce que j'avais pas suivi le protocole. Et alors là, j'ai été obligé de changer de médecin parce que donc j'ai réussi quand même à qu'elle me prescrive le.
Ce qui vous faisait du bien.
Voilà, la cortisone, par voie orale. Mais j'avais bien dit le dosage, et elle m'a donné la moitié du dosage. Donc j'ai été obligé de changer de médecin. Donc. Et donc j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui.
Et voilà, alors, on ne va pas faire toute la pathologie parce que ce serait trop long, mais oui. vous en concluez quoi en fait
Eh bien, ça veut dire que. Enfin, bon, moi, je suis un scientifique, donc je pose des questions, donc je peux arriver à. Enfin, comme ça, j'ai amélioré ma situation. Mais à aucun moment, j'ai pu être écouté. Je vois que les traitements qui sont donnés, en fait, parce que qu'est-ce que fait le bronchodilatateur? Il dilate la bronche. Donc, il dilate aussi, il augmente la surface d'inflammation, puisque votre bronche est dilatée. Et j'ai compris que c'est ça qui me faisait cracher. Donc, le médicament qu'on me donnait me maintenait tout en augmentant mes symptômes et en continuant, enfin voilà.
Ouais,
et la différence, c'est que
c'était un engrenage, quoi, qui
voilà,
vous faisait sortir de votre état.
Voilà, et c'est un engrenage qui coûte à peu près 70 euros par mois, alors que mon traitement actuel, là, celui que je me suis auto-diagnostiqué, enfin auto-prescrit, c'est 3 euros par mois.
Ouais.
Voilà.
Donc selon vous, si je suis ce que vous suggérez, c'est qu'il y a aussi toute une économie qui est faite pour consommer. Et selon un protocole établi, un certain nombre de médicaments, et que parfois il suffirait peut-être d'un peu de bon sens ou que le médecin refasse un petit peu des diagnostics,
voilà,
et ouais, écoute un peu plus le patient, quoi. C'est ça, oui, votre conclusion. Ok.
Et que en fait tout le système en fait est fait pour faire de la vente, pas en fait. La sécurité sociale, c'est très bien, on cotise, mais on cotise surtout pour les laboratoires pharmaceutiques, hein, parce que tout l'argent va là, quoi. Puisqu'on en a, il y en a moins en moins pour les hôpitaux. Donc, il faudrait voir les proportions.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre, effectivement, le système de santé, hein, et la sécurité sociale. On dit c'est gratuit. Bon, d'abord, c'est pas gratuit.
Oui,
hein, on paye. Parce qu'il faut bien que quelqu'un paye, et on le paye tous, et c'est très bien, hein, qu'il y ait un système de solidarité, mais c'est vrai que il y a sans doute, enfin, on le sait aujourd'hui, hein, beaucoup d'abus, beaucoup de médicaments qui sont consommés, puisqu'on est pratiquement les champions du monde en la matière, et tout ça fait vivre toute une industrie et beaucoup d'entreprises qui soi-disant sont françaises et dont on découvre après qu'elles sont très peu françaises, côté en bourse, avec beaucoup d'actionnaires américains ou des fonds comme BlackRock, voilà.
Oui.
Merci beaucoup.
Et ce système, enfin, j'ai encore...
Allez-y.
Je peux continuer.
Pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps, parce ouais, qu'il y a beaucoup de... Allez-y.
D'accord. Ce système, en fait, c'est pas nouveau, hein. C'est déjà dans les années 80, quand je faisais de la physique, on nous disait bien que les laboratoires publics devaient aller chercher des financements chez les industriels, donc chez le privé. Et ce que je vais dire ça juste une phrase, c'est que moi ce que j'ai vu, c'est que la recherche n'est plus libre, la recherche n'est plus libre depuis longtemps. En fait, elle est pilotée par le privé. Et en fonction de le privé, c'est quoi? C'est des sociétés commerciales qui sont là pour faire de l'argent. Pas pour chercher, pas pour améliorer la santé, pas pour améliorer le sort de l'humanité. C'est juste pour faire de l'argent.
Et parfois, on l'a vu, heureusement, c'est quand même pas tous les jours, cette santé, elle la détériore. On a vu la sombre histoire du Mediator qui est aujourd'hui sous les feux de l'actualité. Merci beaucoup, François. Bonne soirée. Prenez bien vos médicaments. 3 euros. Donc, du coup, si vous avez la forme, c'est parfait.
Merci.
Bonsoir.
Bonne soirée.
Nous avons Guillaume qui nous appelle de Cavernac et qui veut nous parler, tiens, de la fête nationale du Québec. C'est aujourd'hui.
Oui, bonsoir Didier. Oui, bonsoir. Bah écoutez, nous sommes le 24 juin, c'est à Saint-Jean-Baptiste, et au Québec, c'est la fête nationale du Québec.
Hein. Ça bon, va bien moi, est-ce que ça va bien?
Ouais, bah écoutez, moi je suis un amoureux, non, comme ils disent là-bas, je suis tombé en amour avec
tombé
le
en
Québec.
Tombé en amour,
hein.
Ouais, c'est ça. C'est une belle expression, tomber en amour.
Tout à fait, voilà. Et donc, surtout, ben, bon, en plus, je suis dans un réseau au sein de la Fédération France-Québec, qu'on visite depuis 1968. D'ailleurs, c'était très sous l'initiative dans la Perfite, hein, faut pas oublier, hein, c'est avec tout le passé de la délégation générale du Québec, reconnue comme ambassade au même titre par le général de Gaulle, tout ça.
Très belle province, hein, la belle province, le Québec.
Oui.
Très belle ville, Québec aussi.
Très belle ville.
Hein,
oui,
ben... moi, j'ai eu la chance d'y aller. C'est un peu, ça ressemble fortement à Saint-Malo.
Tout à fait.
Voilà,
tout à fait. Moi aussi.
On se croirait un peu à Saint-Malo. Et bon, voilà, c'est toute la chale. C'est un peuple fabuleux, des gens simples, et on est toujours très bien reçus au Québec.
Il faut savoir que dans le vieux Québec, il y a beaucoup de maisons en pierre qui viennent de France. Hein,
absolument.
Faut pas oublier. Il y avait à l'époque le commerce, le troc entre la fourrure du Québec et les pierres de Bretagne.
C'est
et
ça. Beaucoup de granit, voilà. Beaucoup de granit notamment.
Et c'est l'occasion, là, en vous écoutant l'émission, de faire quelques petits parallèles. Par exemple, vous savez, au Québec, la limitation d'autoroute est à 100 km/h.
Alors ça, c'est très, très marrant quand on va au Québec.
Voilà.
Quand vous arrivez, pour dire à nos auditeurs qui sont jamais allés, vous arrivez à un stop. Bon, il y a quatre stops. Il y a pas, vous êtes dans la campagne.
Ouais.
Bon,
d'abord, c'est des arrêts. Hein.
Voilà, c'est pas des stops, c'est des arrêts, effectivement. Bah, le premier qui est arrivé passe en premier, ouais. Et chacun regarde l'ordre. Alors c'est toute une approche complètement différente de la route.
Tout à fait. Et même au feu rouge, vous pouvez, même quand le feu est rouge, alors sauf à Montréal, hein, parce qu'ils ont un code un peu particulier, vous pouvez tourner à droite, même au feu rouge.
Voilà.
C'est autorisé, voilà. Et donc, je sais qu'à ce moment, bon, on parle des 110 km en France. Bon, à part qu'au Québec, les autoroutes sont gratuites. Voilà, ce sont les renvois des espèces, les grandes voies express. Et vous avez tout à l'heure parlé des instants parlementaires. Alors, il faut savoir que quand même, au Québec, ils sont assez stricts. Hein. D'ailleurs, il y a un organisme, ça s'appelle le vérificateur du Québec, en fait, un peu comme nos cours de compte, un peu, mais avec un véritable pouvoir. C'est-à-dire qu'un assistant parlementaire n'a pas le droit de faire campagne électorale pour un élu. Il est vraiment dans sa mission d'assistant parlementaire. Et d'ailleurs, il y a eu des cas que le député ou le Sénat, ou bon, même au niveau Canada, c'est pareil. Si ils ne respectent pas la loi, ils doivent rembourser les sommes, le salaire de l'assistant parlementaire. Voilà. Il faudrait peut-être t'inspirer de nos cousins les Québécois. Voilà. Et non, c'est vrai que. Et puis, il y a un petit parallèle que je fais. Voilà, vous savez que dimanche, on va voter pour les municipales.
Absolument.
Et je me suis amusé, j'ai regardé un peu le nombre d'élus. Vous savez qu'au Québec, il y a 8 000 élus conseillers municipaux pour 1 100 municipalités. Hein. Et par exemple, moi, vous prenez, ben, tout à l'heure, on parle de la ville de Québec, hein. C'est à peu près 540 000 habitants. Il n'y a que 23 élus. Dans le maire. D'ailleurs, le maire au Québec est élu directement par la population. Par exemple, il y a une ville comme Sherbrooke, c'est 165 000, un peu comme l'équivalent de Nîmes. Hein. Ils sont 17 élus. Voilà.
Nous, pareil aux États-Unis d'ailleurs, très peu d'élus.
Voilà.
Voilà.
Ben, c'est-à-dire, moi j'habite dans un petit village qui s'appelle Cavérac, on est 4 000 habitants, 28 élus. Je pense, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être avec les transferts de compétences, tout ça vers les agglos, est-ce qu'on a besoin dans les communes autant d'élus de conseils municipaux? Parce que souvent, on s'aperçoit qu'au bout de 3 à 4 ans, déjà un tiers, on les voit plus au conseil municipal.
Non, mais vous rigolez, au bout d'une semaine.
Oui, bon, moi je suis assez gentil, je suis assez diplomate.
Il y a en France pratiquement, allez, à la louche, 600 000 élus. Hein.
Voilà.
Bon. Vous regardez dans n'importe quel conseil municipal, alors les gens font. Moi j'ai vécu ça, tiens, à Lyon par exemple, les gens font campagne, hein. C'est le truc le plus important de leur vie. ils vous expliquent l'écologie, les transports, pourquoi ils ont ça chevillé au corps. Parfois, il y en a qui n'ont jamais vu, qui connaissent à peine Lyon, mais ils sont tous lyonnais. Hein. Ils se retrouvent des parentés. Voilà, bon. Et puis, ils sont élus, et puis vous ne les voyez plus pendant 5 ans, pendant 6 ans, vous ne les voyez plus. Et ça, quand on connaît un petit peu. Alors, c'est faux dans les petites communes. Où les gens, dans les communes rurales, c'est les plus courageux, ils ne gagnent pas un rond, ils ont en général, soit ce sont des gens retraités pour la plupart, qui ont eu des éminentes fonctions dans la société, dans la vie économique, et qui disent, bon, allez, je donne, c'est mon village, je fais un mandat ou deux, je suis le type le plus courageux, tout le monde va venir m'emmerder, me demander des services, et pourquoi ci, et pourquoi là, je le fais pour la collectivité. Et souvent, dans les petites communes, je les mets un peu à part, parce que même s'il y a beaucoup d'élus, c'est pas là que les gens font de l'argent, et ce sont des gens vraiment qui se défoncent pour les autres. Mais après, ça laisse... Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de 577 députés, 385 sénateurs? On a 36 000 communes, alors ça commence à fusionner un peu, mais ça fusionne d'un côté, mais on fait des communautés de communes, des métropoles, on laisse les départements. À Lyon, tiens, je parlais de Lyon en exemple, vous avez une ville, une métropole, mais vous avez aussi un département, le département du Rhône, expurgé de toutes ces communes importantes. Il y a même pas, et donc il y a que des communes rurales. Oui. Mais on fait des trucs sur mesure pour pas embêter les élus qui étaient là avant, etc. Ce millefeuille s'ajoute.
Voilà. Vous avez tout à fait raison. Et moi je pense que quand même, vous voyez, il y a une strasse et des agglos. Pourquoi on a fait des agglomérations, c'est pour donner du pouvoir. Voilà. Moi, je vois Nîmes Métropole, à Nîmes, on dit qu'au début que c'était pour mutualiser, on s'est aperçu qu'il y a pas du tout la mutualisation, et surtout c'est pour casser les amis de X ou de Y. Donc surtout, moi je pense que quand même la commune c'est l'échelon de proximité, et partout, même au Québec où ils ont fait beaucoup de travail, c'est vraiment Après, le département, il a un rôle important, parce que le problème, on fait des agglos, on parle des pôles métropolitains, on fait des structures sur structures sur structures. Finalement, même, regardez, les fusions des régions. Je prends la mienne. On avait le Languedoc-Roussillon, on a fusionné avec Midi-Pyrénées. Bon, en fait, c'était par quelques politiques, c'était pour éviter que le Front National prenne le Languedoc-Roussillon. Mais nous, Nîmes, on se sent pas proche de Toulouse. On est à 1h15 de Marseille et on est à 4h de Toulouse. Voilà, donc on fait des méga... C'est bien, non, c'est comme un peu les agglos ou les méga-régions, mais finalement, on est éloigné du pouvoir, on fait vraiment des petits fiefs locaux. Voilà. Moi, je vais vous dire, moi, je vois avec mes amis québécois, ils nous disent, vous, c'est dommage, vous, la France, vous avez plein d'atouts. Mais vous êtes trop compliqué. Voilà. On est un peu retracés. Et des fois, ils ont raison. Alors, bon, après, des fois, les Québécois, je leur dis, vous êtes des fois un peu français. Vous aussi, vous avez du beau retracé. Bon, voilà. Mais, bon, après, ils sont plus souples, parce que bon, la fonction publique au Québec, ça n'existe pas, voilà. Bon, après, il y a des plus et il y a des inconvénients, des avantages. Après, voilà. Mais il a dit c'est dommage vous la France. D'ailleurs c'est marrant parce que les Québécois ils appellent toujours la France la mère patrie. Ça me fait rigoler. Ils ont encore un lien très très fort avec la France. D'ailleurs vous savez qu'au Québec ils écoutent beaucoup l'information en France. D'ailleurs il y a le journal de France 2 qui est diffusé sur Radio Canada.
C'est pas normal. On va faire une pétition pour que ce soit Sud Radio.
Voilà, mais vous savez que c'est écouté, moi j'ai des amis québécois qui écoutent Sud Radio, voilà.
Alors j'étais surpris parce que j'ai regardé un jour les stats dans le monde sur le digital et il y avait beaucoup de gens j'aurais jamais cru, qui nous écoutent effectivement du Canada, des États-Unis, d'Asie, voilà.
Je pense que aujourd'hui, on passe progressivement à la radio numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, même au Québec, vous avez une petite radio. Moi, je la compare comme Sud Radio. C'est Cube Radio. Il y a un ton vraiment libre. Vous tapez Cube QUB.
J'ai vu ça parce que voilà. Je ne sais pas si c'est vous qui m'avez écrit sur Facebook.
Peut-être, oui.
Voilà, et donc je suis allé voir, effectivement.
Et donc, c'est une radio numérique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parce qu'il y a avant, c'est vrai, il y avait la FM, tout ça. Il n'y avait pas Internet. Mais c'est vrai qu'avec Internet, on peut écouter maintenant, aujourd'hui. Moi, je regarde des informations au Québec. C'est vrai que même moi, j'ai des amis qui écoutent sur la radio et qui n'ont pas de FM. C'est pour ça que j'ai dit, écoutez, vous pouvez écouter sur le site sudradio.fr. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que la FM, voilà. Et donc c'est vrai que le numérique ça va un peu casser les frontières entre guillemets, parce que bon, on a toujours besoin de frontières, mais ça permet aussi d'une ouverture, parce que des fois j'aime bien dire, des fois allons voir ce qui se passe ailleurs pour aussi s'améliorer, parce que tout à l'heure je rigolais sur les 110 km. Bon, alors moi je serais pour les 110 km sur les autoroutes françaises à condition qu'elles deviennent gratuites. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un bon deal.
Là, c'est un vaste débat. Moi, j'aurais tendance à dire plus et plus. Hein. Qu'on reste à 130 et qu'elle devienne gratuite. Non, parce que je dis ça, ça peut paraître comme ça un trait d'esprit, mais les autoroutes, on les a déjà payées.
Ben, tout à fait.
Et après, on les a privatisées, on les a revendues. Maintenant, chaque fois, on nous fait... Donc, on nous dit, on fait des grands travaux. Ben, les Français, ils ont déjà payé. Et après, on vend les bijoux de famille, les infrastructures, on les a déjà payées. Pourquoi on vend nos aéroports ? Ben, les autoroutes, c'est pareil.
Surtout, les autoroutes, ça rapporte... ça rapporte aux sociétés, c'est 10 milliards de profits, à peu près. Hein.
C'est ça.
Et bien, si elles étaient publiques, ce serait 10 milliards dans les cas de l'État. Voilà. En fait... On vend les bijoux, on vend notre patrimoine, parce que moi je pense que les autoroutes ça appartient à notre patrimoine, on brade, et après on s'étonne qu'on a des déficits, mais il faut arrêter.
Voilà. Vous savez qu'il y a des projets, alors on ne sait pas si ça va être ressorti, mais peut-être comme il y a quand même un sacré problème de financement public, pour que l'on privatise les routes nationales aussi.
Oui, j'ai attendu.
Voilà. Bon, et puis, de toute façon, vous savez, quand vous commencez à vendre votre pays à la découpe sur vos infrastructures, ports, aéroports, autoroutes, routes, barrages, quand vous vendez votre énergie, vos ressources, voilà. Quand vous vendez vos fleurons industriels et que vous n'avez, même si vous êtes dans le nucléaire, que vous n'avez plus la capacité à entretenir votre parc nucléaire, là, il faut quand même commencer à se poser des questions parce que ça devient dangereux.
Surtout, l'énergie, c'est pas une industrie comme une autre. C'est d'ailleurs moi j'avais lu c'est un homme que d'un côté j'admire mais que je redresse un peu Henri Guénaud. C'est le problème, des fois Henri Guénaud il écrit des bonnes choses mais il ne les applique pas, hein. Il avait écrit dans son livre L'étrange renoncement, vous voyez, ça date de 96 ou 17, hein, son livre, hein, L'étrange renoncement, où il dit dans ce livre qu'en fait l'énergie, en fait, on peut pas la privatiser ou on revient il y a 200 ans là, où il avait des petites sociétés privées, parce qu'il faut la produire de façon centralisée. Pour faire, parce que c'est l'énergie, comme il a bien expliqué,
c'est stratégique. Il faut bien contrôler, hein. L'énergie, c'est stratégique pour plein de raisons. Mais...
Donc, d'ailleurs, regardez, depuis que ça a été privatisé, l'électricité augmente fortement, ou alors ils augmentent par des nouvelles taxes. Hein, quand vous regardez, moi je me suis regardé un peu les.
Les taxes, alors moi j'ai fait ça, il y a 49% de taxes sur une facture.
Voilà. C'est simple. Même l'abonnement, alors vous avez, moi j'ai le compteur Linky.
Ah ça, moi je l'ai eu aussi, on me l'a changé trois fois.
Voilà, alors moi je ne l'ai pas encore changé.
Ça ne marche jamais, il est bouffé par les fourmis.
Moi non, mais l'abonnement ne descend pas, parce que normalement c'est tout automatisé. Il n'y a pas un gars qui vient relever le compteur maintenant.
Non, donc, mais l'idée, c'est quand même là aussi, il faut le dire, hein, il y a eu un très bon reportage, je crois que c'était sur France Télévisions, où on voyait, pour la première fois, une équipe de télé était autorisée à entrer, et on voyait tous les écrans de la consommation en temps réel. Donc là, c'est encore, on dit, ah, c'est pour réguler, etc. C'est encore un moyen intrusif, hein, de rentrer dans la vie privée des gens, etc. On sait exactement si vous utilisez aujourd'hui, on est en capacité de le savoir, votre machine à laver, votre fer à repasser ou votre machine à café. Hein, ça pose
tout
aussi
à fait,
un voilà. certain nombre de questions. Écoutez, on va être obligé de se quitter. Parce que le temps passe très vite. Si vous allez au Québec, ben vous voulez saluer de la part de Sud Radio. Voilà. Et puis, il y a longtemps tiens, que je ne suis pas allé au Québec. Et j'espère que j'aurai l'occasion de refaire ce prochain voyage. Et tous ceux qui nous écoutent, les chers amis québécois, on vous embrasse. Merci Guillaume, à très bientôt.
Ben, de rien. À bientôt, au revoir.
Au revoir, allez les amis, voilà, il est temps de se quitter. Encore une petite page de pub, mais on la passera juste après. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je serai là, moi, jusqu'à la fin de la semaine, vendredi soir. Après, bon, il faut que je me refasse une petite santé, parce que là, je tire sur la corde, je suis en pleine forme, mais bon, du lundi au vendredi, depuis des mois... levé 6h, fin des émissions, 22h30, etc. Et ben voilà, j'ai plus 20 ans et je le déplore. Je suis trahi par mes artères, non blague à part. On se retrouvera, je vous dirai tout ça, probablement ensuite de façon hebdomadaire, toujours le soir, hein, sur un format un peu comme ça, tranquille, cool, où on se dit tout, où on échange, où on se prend pas la tête, hein, comme on dit, et où on essaie de s'enrichir, d'échanger, s'enrichir les uns les autres, voilà. C'est un objectif, ma foi, il me semble louable, atteignable, et qui nous fait du bien à tous dans ces temps un petit peu troublés, où l'énergie, l'infrastructure, la parole est contrôlée. Donc voilà, cessons tout contrôle de nous-mêmes, bon, dans les limites de la bienséance, hein, parce que nous sommes très bien élevés, bien sûr. Passez une bonne soirée, on se retrouve demain à 21h. D'ici là, portez-vous bien. Salut.